de tous
Amen.
nos otages et
Amen.
pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont tombés.
Amen. Amen.
Les amis, Sefer Shemot, on ouvre le livre de Shemot après avoir terminé l'étude du livre de Bereshit. Et eh bien, la première chose à dire, c'est que le livre de Shemot ne s'est pas toujours appelé comme ça. C'est-à-dire que Sefer Shemot, l'Exode, a plusieurs noms en fonction des différentes explications rabbiniques. Et l'un des noms qu'on va retrouver dans le Talmud qui était donné par les Tanaïm au livre de Shemot, c'était Sefer Sheni. Bon, vous allez me dire,
logique,
rien, voilà, rien de foufou, c'est logique, c'est le deuxième. Sauf que personne ne va jamais appeler le livre de Vayikra Sefer Shlishi. Ni Bamidbar Sefer Revi'i, ni Devarim Sefer Hamishi. Donc il semblerait qu'il y a un truc avec le livre de Shemot. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est qu'il est Sheni par rapport à Bereshit. Vous savez, comme quand les chrétiens, ils ont traduit la Bible et ils se sont appropriés la Bible, alors ils ont vu le livre de Shmuel, il est trop grand, alors ils ont fait Samuel A et Samuel B. Bah, dans le même ordre d'idée, on pourrait dire qu'il y a Bereshit A et Bereshit B. Et donc, le livre de Shemot, c'est la suite de Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la suite de Bereshit? Eh bien, c'est-à-dire que c'est le même kivoun, c'est la même direction du dévoilement. C'est-à-dire que, et dans Bereshit, et dans Shemot, c'est le dévoilement qui vient du haut vers le bas. Alors que dans le livre de Vaïkra, par exemple, le premier verset de Vaïkra, c'est l'appel de Dieu à Moshe, c'est la volonté que nous, on monte du bas vers le haut. Donc Bereshit et Shemot, c'est un tout. D'accord? C'est quoi ce tout? Eh bien, si on devait résumer, maintenant qu'on a terminé le livre de Bereshit, comment est-ce qu'on résumerait le livre de Bereshit? Vous avez une phrase. Voilà.
L'histoire des patriarches.
L'histoire des patriarches. Le problème, c'est quand tu me dis ça.
Ça continue aussi avec Shemot.
Alors non, tu as raison que Shemot, c'est vrai.
Aussi,
on va évoquer vite fait, mais le problème que j'ai quand tu dis l'histoire des patriarches, c'est que... quel patriarche? De qui? De quel peuple? Tu vas pas tout. Ah bah, tu m'as pas dit. Moi, si je sais pas. Moi, si je ne sais pas, c'est. Je sais pas. Alors, si je devais donner, moi, une phrase de résumé de tout le livre de Bereshit, je dis: Dieu a créé le monde pour y créer une identité humaine qui va se révéler par le peuple d'Israël. C'est le livre de Bereshit. Hein?
Gava.
Pourquoi Gava? Bah, j'ai lu le bouquin. Dieu a créé le monde pour finalement arriver à l'homme. Et l'identité par laquelle Dieu se dévoile, c'est le peuple d'Israël. C'est les Abraham, Yitzhak et Jacob et leur famille. Gava peut-être, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué dans le livre. C'est quoi le livre de Shemot? Si je devais donner une définition, enfin un résumé de tout le bouquin alors qu'on n'a pas commencé, je dirais... Bah, c'est bien beau de me dire que Dieu il a créé le monde, il a créé l'homme, il a créé le peuple juif, mais pourquoi faire? Le livre de Shemot, son but, c'est de nous amener, comment termine le livre de Shemot, à la présence divine qui réside au sein du Mishkan dans le peuple juif. Donc tout le but du livre de Shemot, c'est la sortie d'Égypte pour arriver à la présence divine dans le Mishkan. D'accord? Donc comment on va passer de là à là? Ben, ça va être tout le projet du livre de Shemot. Ça marche? Alors, juste avant de rentrer dans le premier verset, comment se terminer le livre de Bereshit? Eh bien, par un verset très très compliqué, très pessimiste. Puisqu'on nous dit quoi?
Moi, je ne sais pas par
cœur. T'as pas par cœur? Il n'y a que toi qui a le. Il n'y a que toi qui a le dernier verset de Bereshit.
Tu dois avoir Yosef.
Eh oui. Vayamot Yosef, vechol echav. Non, c'est pas bon. Ben Mère et Esser Shanim, Ben Yisem, Ben Aaron, Ben Mitzrayim. C'est terrible. C'est-à-dire que tous les espoirs du peuple juif retrouvé, de la famille qui est ensemble, hein, ben Amot Yosef, et cet espoir de Yosef, Machiar Ben Yosef, on le met dans une boîte en Égypte. Comme si il y avait une Pandore qui avait une boîte qu'il ne faudrait pas ouvrir. Tout le but du livre de Shemot va être de réouvrir la boîte et de faire sortir, d'ailleurs dans la sortie d'Égypte, on va faire sortir également les ossements de Yosef. C'est-à-dire
les ossements
de Yosef. D'accord ? Qui porte en lui l'espoir de la nation d'Israël. D'accord ? Alors sur ce, on peut y aller. Ve'ele, et ça commence mal. Non, ça va. Mazé ve'ele.
C'est écrit.
Et voici. Et c'est marqué en haut. Et voici. Nous disent nos sages, à chaque fois qu'il y a marqué ele, sans ve'ele, ça veut dire qu'il faut, comme si on ne devait pas lire ce qu'il y avait marqué avant. Mais lorsqu'il y a marqué ve'ele, c'est qu'on est directement dans la suite de ce qui a marqué avant. Donc, comme on vient de dire, on ne peut pas comprendre le livre de Shemot sans avoir pris avec nous tout ce qu'il y avait à apprendre de Bereshit. Donc, ve'ele Shemot b'nei Israël abaim Mitzrayim. Ah, voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Alors, vous savez très bien que le mot Shemot veut dire les noms, évidemment, mais ça veut dire quoi un nom en hébreu ? C'est Matara.
Un but.
Un but, un objectif. Quand tu dis je fais ça au nom de, c'est l'objectif de. Leshem Shamaim. Ok ? Donc, Ve'ele Shemot. Voilà les objectifs qui sont arrivés en Égypte. Top. Et c'est quoi ces objectifs ? Eh bien, Bene Israël, Abaim Mitzrayim. Mise Bene Israël, Abaim Mitzrayim. C'est qui ? Qui sont ces enfants d'Israël ? Bon, on nous dit Et Yaakov, Ishu Beito, Baou. Donc Yaakov fait partie de qui ? Moi je suis très mauvais, hein, je ne fais que de la traduction. Si on me dit voici le nom des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte.
Les enfants de Jacob.
Eh bien c'est pas ce qui a marqué. Je relis le verset. Et voici le nom des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Virgule, deux points. Yaakov et sa maison sont venus.
Voilà, ben,
donc c'est qui les enfants d'Israël ?
Que la descendance de Yaakov.
C'est pas ce qui a marqué. Je relis le verset. Voici le nom des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Des points. Yaakov et sa maison.
Ouais. La Beto, c'est sa famille.
Oui, tout à fait. Je pose. C'est pas ma question. C'est, non, sa maison, ça veut dire les gens qui sont avec lui. Il n'y a pas de problème. Ma question, c'est pas qui est sa maison. Ma question, c'est qui sont. On fait une étude de texte. C'est ce qu'on demande aux enfants en Kita Gimel. Avanata Nikra. Ça a l'air, c'est très chou. Avanat Anikra, les amis. Ve'ele Shemot b'nei Israël, Abaim Mikra Mitzrayim. Voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Qui sont ces enfants d'Israël ? On nous dit Et Yaakov, Ishu Beto, Baou. Si c'est qui les enfants d'Israël ? Yaakov et sa maison. Donc, qui sont les enfants d'Israël ? Vous voulez pas, hein?
Non, non.
Vous voulez pas,
hein? Mais c'est les enfants de Jacob.
Non,
non, ça fait 10 fois qu'il dit non.
Mais c'était toutes les tribus.
Non.
Il n'y a pas de tribus.
Bon, alors je vais vous aider. Je vous aide. Je fais de la lecture. Je vais mettre le mot qui manque, comme ça sera clair. Voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Deux points. Les enfants d'Israël qui arrivent en Égypte sont Jacob et sa maison. Yaakov et Yaakov Ishubeto, ce sont les enfants d'Israël. Yaakov et sa maison sont, et donc ses enfants,
oui,
sont les enfants d'Israël.
Ben oui, mais c'est ce qu'on a dit.
Non, vous avez dit ce sont les enfants de Yaakov. Ah, moi, je dis que c'est Yaakov et sa maison. Donc,
ensemble.
Qui est Israël ? Donc, qui est Israël ?
C'est tout l'ensemble.
C'est donc, c'est qui Israël ?
Non, non,
non. Non, non, non. Yaakov et ses enfants, c'est les enfants d'Israël. Après, il y a marqué Béné Israël.
Ouais.
Qui est donc Israël ?
Ah, c'est le peuple. Père, c'est Abraham.
Ah là, tu vas trop loin.
Hein ? Alors,
tu vas trop loin.
Oui.
T'es remonté un coup trop haut.
Yitzhak.
Eh oui, les amis. Pourquoi je vous fais ce truc-là ? C'est pas pour vous torturer.
Ouais.
Non. On a l'habitude, évidemment, on sait que Yaakov, il a reçu un autre nom qui s'appelle Israël.
Ouais,
ben ça,
oui.
On le sait. Mm-hmm. Sauf que dans le verset, c'est pas ce qu'on nous dit. Dans le verset, on nous dit que Yaakov fait partie des enfants d'Israël. Donc, ça me laisse pas le choix que de dire que Israël, c'est Yitzhak. Je sais bien que Yitzhak, il a pas le nom d'Israël.
Attends,
que c'est...
il a eu deux enfants.
Qui ?
Au moins.
Qui ?
Yitzhak.
Oui, Yaakov et Esav.
Voilà. Et alors,
oui, mais là, le verset... Parce que le verset m'en parle pas, donc j'ai pas besoin de rentrer un nouveau problème dans l'équation. Mais là, le verset me dit, les enfants d'Israël, c'est Yaakov et sa maison. Et ça, on me l'a pas parlé, donc laisse tomber. Mais on me dit, les enfants d'Israël, c'est Yaakov et sa maison. Donc Israël, c'est le père. C'est Yitzhak. Maintenant, c'est contre-intuitif parce que nous, on nous a appris que celui qui s'appelle Israël, c'est Yaakov. Nachon. Mais nous dit la Torah, sache que le vrai Israël, c'est Yitzhak.
C'est
particulier. Oh, bah qu'est-ce qu'il a de particulier Yitzhak? Il n'est jamais sorti de l'Israël.
Il n'est jamais sorti d'Israël.
Jamais. C'est-à-dire que Yitzhak est Israël par excellence. Yaakov va être son expression. Mais pourquoi je dis que Yitzhak est Israël par excellence? Comme tu l'as très bien dit, Yitzhak a eu deux enfants. Et ce n'est pas Ishmaël et Yitzhak. Parce qu'Avraham, il n'a pas eu vraiment deux enfants. Il a eu six enfants. Mais il n'a pas eu que deux enfants. Enfin, il a eu huit enfants. Mais il a eu d'abord Yitzhak et Ishmaël. Enfin, Ishmaël et Yitzhak. Mais ils n'ont pas le même statut. Puisque Ishmaël est le fils de la servante, alors que Yitzhak est le fils et l'héritier. Donc, en fait, le statut de Ishmaël et de Yitzhak n'est absolument pas le même. À aucun moment, comme a dit Sarah d'ailleurs, lo irash ben ahama azeim ben im Yitzhak. C'est-à-dire, Ishmaël et ses descendants n'ont aucune légitimité en terre d'Israël. Ni à l'époque, ni aujourd'hui.
Maintenant.
Bien sûr. Mais pour ce qui est de Yitzhak, c'est très différent. Parce qu'il a eu deux enfants de sa femme Rivka. Deux jumeaux qui s'appellent Yaakov et Esav. Ce qui veut dire que, normalement, qui devait constituer le peuple juif? Yaakov et Esav. Mais oui. C'est-à-dire qu'il devait y avoir deux forces dans le peuple juif, Datim et Chilonim, Yaakov et Esav, qui doivent travailler ensemble. C'est ça le but.
Et apparemment, Esav n'est jamais sorti d'Israël. Non.
Ah si, après il est parti à Arseir. Il est parti à Seir. Mais c'est vrai que pendant qu'Yaakov était parti, lui, il était resté. Ça, c'est un mérite qui lui est gardé. Mais normalement, Yaakov et Esav auraient dû être tous les deux les enfants de Yitzhak, le peuple juif. Ouais. Eh oui.
Mais c'est comment Yaakov qui a reçu la bénédiction.
Et j'entends bien. Pourquoi? Parce que Esav a décidé d'abandonner son rôle. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées quand on a étudié la parasha de Toldot. Ouais. Donc ça veut dire que Esav a rejeté sa volonté de faire partie du peuple juif. C'est là. Maintenant, heureusement pour lui, l'identité d'Israël n'était pas encore créée. Heureusement. Parce qu'il a donc pu sortir, faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, si ça arrive, on n'est pas prêt à le laisser sortir. C'est-à-dire que nous, on n'est pas prêt à abandonner un juif, même quand lui, il veut. Ça, on n'est pas prêt à ça. On ne va pas dire des noms. Mais je le sais, enfin, c'est assez connu d'ailleurs, il y a des gens qui sont nés en Israël, ça arrive, des gens qui sont nés en Israël, et qui, à un moment donné, à l'âge de 18 ans, vont au Misrad Apnim et signent un papier très grave, qui est quoi comme papier ? Je renonce
à
ma nationalité israélienne pour ne pas aller à l'armée. Ok, c'est une minorité de gens qui font ça, mais bon, ça existe.
Ça existe.
Imaginez qu'est-ce qui arriverait à un juif comme ça, qui déciderait de renoncer à son identité israélienne, parce qu'il ne veut pas l'armée ou quoi que ce soit, qui se retrouverait en France et qui serait assassiné parce que juif. Et qu'on voudrait ramener le corps pour les funérailles en Israël.
C'est compliqué, ça.
Est-ce qu'on ne ferait pas passer sous silence le fait qu'il a décidé de trucs parce qu'il y a des choses plus importantes, oui. Et surtout parce qu'on n'est pas prêt à le laisser partir.
Non.
Mala saute. On n'est pas prêt à te laisser partir.
Ouais.
Be'al kochacha, tu fais partie du peuple juif.
Voilà.
Et mala saute. Aujourd'hui, une fois que l'identité d'Israël a été créée, si Esav avait été aujourd'hui, on aurait tout fait pour le garder, et quitte à subir ces posts antisémites sur Facebook, sur Instagram. Parce que tu fais partie de l'identité, on va pas te laisser partir. T'es avec nous, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Mais à l'époque, non. Donc Esav, il est de côté. Il a pas voulu faire partie de ça. Donc Yaakov, il a été obligé de prendre lui-même les deux rôles. Et donc, pour prendre lui-même ces deux rôles, le rôle de celui qui est dans le Kodesh et celui qui est dans le Chol, eh bien, il a dit, enfin, c'est Yitzhak qui a dit, à Kol Kol Yaakov va Yadaim Yedei Esav. La voix est la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. C'est le mix.
Il faut faire les deux.
Il y a fait. Mais à l'origine, ça aurait dû être fait par ces deux personnes qui bossent ensemble. Bon, et ça, il n'a pas voulu. Donc, Yaakov, il a été obligé de faire les deux. Ah, très bien. Donc, Yaakov, toi, tu vas t'appeler Israël, puisque tu es le seul à le faire. Mais normalement, toi et ça, vous auriez dû être les béné Israël de moi. Donc, on retrouve ça dans le verset qui nous dit « Voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte, Yaakov et sa maison. » D'accord ? Ok ? C'est clair, c'était marqué. Pas shoot. Bon, alors, c'est qui sa maison ? Maintenant, on peut poser la question, c'est qui sa maison ? Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvouloun, ou Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Pourquoi est-ce
pourquoi
que c'est...
Pourquoi dans cet ordre ?
Voilà.
Et pourquoi il ne dit pas Dina ?
Et pourquoi il ne dit pas Dina ? Et pourquoi il ne dit pas Yosef ?
Yosef.
Ok ? Alors, on va commencer... Alors, voilà. Yosef, on va nous dire juste après que Yosef a Yakvar ben Mitzrayim. Donc là, on nous a dit voici les noms des enfants d'Israël qui sont arrivés en Égypte. Bah, Yosef, il est déjà là-bas. On s'est d'accord. Après, pour ce qui est de Dina.
Elle aussi est partie.
Personne ne m'écoute.
C'est une fille, on s'en fout.
Ah non, t'es dur. Moi, j'aurais juste dit c'est une fille. Toi, tout de suite, t'as rajouté on s'en fout. Ça ne fait pas. Non, c'est juste que à l'époque, la société est patriarcale et que donc ceux qui sont
très très très.
J'aime bien à l'époque.
Quoi
à l'époque.
Bah, c'est plus
il y
le cas
a des
aujourd'hui.
Fois, c'est pas si loin.
Aujourd'hui.
Si, mais il va y avoir une révolution après.
Ah voilà, d'accord. Bon ben, qu'est-ce que je te dis ? Il y a 3500 ans, le fait est que la société, elle passait par les garçons.
Ouais.
Zemayesh. C'est-à-dire. Non, tu dis qu'on en est encore là aujourd'hui, je ne sais pas.
Les femmes de la Torah, elles avaient un rôle.
Oui.
Elles avaient un rôle, je me dis qu'elles n'avaient pas de rôle. Mais ce n'est pas elles, les tribus d'Israël.
Non.
Mala Asot. Je suis désolé. Je n'en veux pas. C'est pas moi qui écris. Mais je reviens à la première question. Pourquoi cet ordre-là ? Parce que ce n'est pas l'ordre des naissances.
Non, mais c'est l'ordre des moments.
Ah ! Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvouloun, c'est l'ordre des six naissances de Léa. Binyamin, c'est l'ordre de naissance de Rachel, si on ne compte pas Yosef parce qu'il est déjà là. Et ensuite, on fait Bilha, Dan, Naphtali, et Zilpa, Gad, Asher. Donc, il y a oui, ici un ordre très clair, les femmes légitimes officiel. D'abord, officielles, et les concubines après. C'est vrai ? Veikol nefesh yotze yerech Yaakov shivim nefesh ve Yosef aya bemitzray. Donc, toute la famille de Yaakov, c'est 70 personnes, ve Yosef aya bemitzray. Rashi nous dit, hu betzitko. C'est-à-dire, maze, hu betzitko. Il est resté tzadik. Et c'est pas facile. Ça fait maintenant près de 17, un peu plus de 17 ans qu'il est en Égypte, ça aurait été facile de s'assimiler. Ça aurait été facile de couper ses péotes, de s'habiller à l'égyptienne, de changer de nom. Attendez, il l'a fait. Ah bah oui, il s'est habillé comme un égyptien, il a changé de nom, il est devenu Sarfina de Panéar, il est vraiment devenu un égyptien à 100%. Non, bah non. Zahakol Bluff. Yosef Aya Ben Mitzrayim. Eh oui, quand il rentrait le soir, qu'est-ce qu'il enseignait à Ephraim et Menaché ?
La Torah.
Toiré. Bon, je ne sais pas quel Toiré, mais... C'est-à-dire que, non, Yosef, il n'a pas abandonné son identité.
Non,
il est resté en Égypte avec sa capacité d'être tzadik. C'est une capacité que n'a pas Yehuda. Yehuda, quand il part en Égypte, il a besoin d'aller à Goshen. Yehuda, quand il part en Égypte, il a besoin d'aller dans le ghetto. Il a besoin de s'enfermer dans un monde juif. Parce que si Yehuda y tombe, c'est compliqué. C'est-à-dire Yehuda, s'il est face à l'assimilation, il n'arrive pas. Yosef, il arrive à l'intérieur des Goïm à rester juif. C'est caché. Yehuda, a priori, c'est celui qui est juif. Yehudi. Aval Yosef, Zegematria Tzion. Et donc Yosef, il est rattaché à son identité juive parce qu'il a les regards verts. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'était pas facile, Yosef, ça n'a pas été comme ça, Nachon. Ça n'a pas été comme ça jusqu'au moment où il y a eu le switch dans la paracha de Vaïgash. Paracha de Vaïgash, il renoue avec son identité. C'est pour ça qu'à la fin de Bereshit, il avait dit à ses frères, n'oubliez pas de ramener mes ossements avec vous en Israël. Vous savez ? Donc, Yosef aya be Mitzray. Ve'amot Yosef, ve'chol echav, ve'chol ador ahu. Donc, toute une génération s'est passée. Ça y est. Je pose le bémol avant de continuer en disant, quelle est la situation en Égypte à la mort de Yosef ? La situation économique du pays, on en est ? On est au top.
Au top.
On a survécu aux 7 ans de famine, on s'est refait, et Yosef a amené la bracha dans tout le pays, on est au top. Quelle est la situation des Juifs en Égypte à la mort de Yosef ? À la veille de la mort de Yosef ? Au top.
Au top.
C'est-à-dire que les Juifs sont partout, ils sont implantés en Égypte, les frères de Yosef sont ministres à la cour de Pharaon. On est au top. Alors, Vienne, je ne suis pas certain qu'il y avait tellement de Juifs qui étaient politiquement impliqués. Donc c'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr que ce soit Vienne. Par contre, on pourrait parler d'autres civilisations, d'autres pays plus actuels, on a des juifs qui sont à tous les postes clés de l'État. C'est-à-dire ? Donc c'est, tout va bien. On est au top. Très bien. Puisqu'on est au top, « Uvenei Israël, paru, veishretzu, vayirbu, vayatzmu, bimeod meod, vatimale haaretz otam. » Où est-ce que Yosef avait mis ses frères quand ils sont arrivés ? À Goshen. On accepte les juifs quand ils sont pas trop visibles. Ils sont chez eux, le Birobidjan. C'est ça ? Mais les juifs, non seulement ils vont commencer à prendre des postes importants, bon, au début, c'est pas grave parce que c'est une situation de crise. Donc si Yosef, il amène ses frères parce que ses frères, ils savent gérer, on est bien contents. Mais bon... Ça y est, la crise, elle est finie depuis longtemps. Et puis, c'est quand même bizarre, ils sont toujours en poste. Et puis, ils ont mis aussi leurs enfants et leurs cousins. Et puis, tout d'un coup, je me rends compte que maintenant, de plus en plus dans les chaînes d'information, les présentateurs télé, c'est des juifs. Et puis, je me rends compte que ce n'est pas que les présentateurs. C'est dans tout le paysage audiovisuel, il y a 70% de juifs à l'antenne.
Ça devient antisémite.
C'est... Ils sont gentils, hein. Bon, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont égyptiens, ouais, pas de problème. Et ils veulent pas trop parler de leur judaïsme. Ah, en fin de carrière, quand ils ont déjà passé 70 ans, alors ils peuvent parler de leur judaïsme sans problème. Bon, à un moment donné, la population égyptienne.
Non.
Bon, évidemment que toute ressemblance avec un cas plus actuel serait purement fortuit et involontaire. Bien sûr, nous ne faisons qu'étudier un texte qui a 3500 ans.
C'est jamais qu'une répétition.
Mais c'est pas là où... Malas. Les Béné Israël se sont on croissé, je ne sais pas si on dit croissé, se sont multipliés, ont cru.
Oui, ils sont devenus nombreux.
Ils ont cru ? Ils ont cru ?
Mais ils ont pullulé, hein.
Ah, elle dit pullulé, tu vois. C'est trop facile. Moi aussi, j'aurais su de dire pullulé.
Ah ben, c'est très...
Traduis-moi, croître.
Oui, ils ont cru.
Ils ont cru. Ça me faisait penser au passé, ça. Et au passé, on dit comment? Et au passé, on dit comment?
Il croissait.
Oui. Elle n'a pas l'air convaincue par ton croisser. Comment on dit au passé?
Le croître.
Ils ont, au passé composé, ils ont cru. D'accord, ça c'est au passé.
Oui.
D'accord.
Non, c'est pas cru.
Il dit c'est pas cru.
Non, cru, c'est croire, c'est pas le même mot.
Ils ont cru avec l'accent circonflexe. Pour croître au passé.
D'accord. Ils ont cru. Ils ont cru avec l'accent circonflexe.
Ouais, Google, il m'a dit.
Et on sait bien ce que
vous
dites. Ils ont cru. Non, c'est pas le présent.
Non,
ils croient. Les croisses.
Oui,
les croisses.
Les corbeaux.
Non, c'est les grenouilles.
Non, pas les croisses, mais croisses.
Bon, ils ont pullulé, quoi. Dès qu'ils sortent, ils ont pullulé. Ils se sont multipliés. Ça, c'est bien multiplié ?
Ouais, voilà, très bien.
Exactement. Ok. Donc, les enfants d'Israël se sont donc multipliés. Vayirbu, vayatsmu, bimod meod, ils se sont aussi énormément installés au niveau financier. Vatimale a aretzotam. C'est le grand problème. Ils sont plus restés à Goshen.
Pourquoi c'est marqué Eretz Otam ?
Vatimale a aretz otam. C'est-à-dire que la terre s'est emplie d'eux. C'est-à-dire qu'alors qu'ils étaient au départ qu'à Goshen, là, ils ont commencé à acheter une maison là, Il y avait le Beverly Hills de l'Égypte. Et tout d'un coup, il y a des Juifs qui ont acheté des propriétés, machin. Il y a un Beth Rabad maintenant là-bas.
Alexandrie sur la corniche.
Mais exactement, exactement.
Ça va plus.
Donc à un moment donné, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. S'est levé un nouveau roi. Alors les commentateurs, ils disent, est-ce que c'est un nouveau roi mamash ? Est-ce que Béhémeth, il ne connaissait pas Yosef ? Est-ce que c'est... Oui, il connaissait très bien, mais il a fait genre de ne pas savoir. Zélo Méchané.
On sait quel roi c'était.
Alors, si on va au niveau historique,
oui.
Au niveau historique, je ne sais pas si on l'avait évoqué à l'époque, on avait parlé de Yosef, mais à l'époque de Yosef, le pharaon de Yosef, il est quand même très bizarre. Il est quand même très très bizarre dans son comportement avec Yosef, avec Yaakov. Ça ne ressemble pas du tout au pharaon qu'on a vu avec Abraham. Ça ne ressemblera pas du tout au pharaon qu'on verra avec Moshe. C'est-à-dire, le pharaon de Yosef est quand même très philosémite, finalement.
Bah, parce que quand même, il l'a aidé. Hein.
Mais même avant de l'aider. Je veux dire, il n'a pas du tout le même comportement que le pharaon d'Abraham qui vole Sarah et tout ça, machin, que le pharaon de Moshe, qu'on n'en parle même pas. Et donc, historiquement parlant, ça correspondrait, je mets du conditionnel, mais il y a quand même pas mal de correspondances. Et on est au XVIe siècle avant l'ère chrétienne, l'époque de Yosef, et c'est l'époque où les Hyksos, sont venus conquérir l'Égypte. Il y a une période, entre le XVIe et le XVe siècle avant l'ère chrétienne, où l'Égypte a été conquise par un peuple sémite qui s'appelle les Hyksos, qui serait venu donc du nord, donc de la région d'Israël, et qui seraient venus conquérir l'Égypte et auraient repoussé, enfin ça pas aurait, ils ont vraiment repoussé les dynasties pharaoniques jusqu'au sud, jusqu'à l'Éthiopie, jusqu'à l'origine du Nil, et ils ont gouverné l'Égypte pendant près de 80 ans. Ok ? Ces gens-là ont un pharaon qui est, ils en ont plusieurs dirigeants, mais le plus connu d'entre eux, c'est un monsieur qui s'appelle Akhnaton. Akhenaton en français.
Non, c'est le roi du soleil.
Et c'est un pharaon très bizarre parce qu'il dénote complètement du reste des pharaons parce qu'il annule toute l'idolâtrie égyptienne. Ouais. Et il crée un culte du dieu unique, Aton le soleil, et lui devient le serviteur d'Aton.
Alors c'est lui le roi nouveau, alors c'est Akhenaton.
Alors attends, non.
C'est pas lui.
Non. Et à ce moment-là, si ça correspond. Ah ben, ça explique pas mal de choses. Peut-être que ce pharaon qui est copain avec Yosef, ben Yosef lui a appris le monothéisme.
Ouais.
Ça pourrait expliquer pourquoi tout d'un coup, il y a un pharaon qui vrille et qui annule l'idolâtrie, qui devient le dieu unique. Bizarre, cette histoire. Ouais. Et ces Hyksos-là sont des Sémites. Ils sont donc beaucoup plus proches des Hébreux que des Égyptiens. OK ? Et ça explique le verset qui suit maintenant. Parce que le verset nous dit donc « Vayakom melech hadash al mitzrayim, asher lo yada et Yosef ». D'accord ? Et donc, ça correspond, là, on est après Yosef, on est au 15e siècle, voire 14e siècle avant l'ère chrétienne, et c'est le moment de la naissance de Moshe, sortie d'Égypte, ce que vous voulez. Eh bien, lorsque, 100 ans plus tard, les Égyptiens reviennent, vont reprendre l'Égypte de la main des Hyksos et les repoussent, il y a fort à penser que les alliés des Hyksos deviennent les ennemis des Égyptiens revenus. Et donc, ça explique pourquoi le pharaon, qu'est-ce qu'il dit, ce nouveau pharaon, il dit comme ça, « Vayomer elamo, ine am bene Israël, rav ve'atsum. » Mais nous, il y a un peuple, les bene Israël sont plus nombreux que nous. Et alors, « Ava nitrak malo, » venez, on va mettre en place un stratagème contre eux, « Pen irbe vaya tikren, ki tikrena milchama, venosav gamu al sonenu, venilcham banu ba'ala mina aretz. » Parce que si jamais il y a une guerre, ils se mettront avec nos ennemis. Bah, si t'es ton copain, il n'y a pas de raison. Mais voilà, si tu replaces la chose dans le contexte historique, effectivement, si c'est de cette époque dont on parle, les Hyksos partent, mais on a peur que les Juifs qui étaient copains et alliés aux Hyksos, s'ils reviennent, ils vont se mettre avec eux. Donc ça peut expliquer tout ça. D'accord, au niveau historique.
Mais le roi nouveau, c'est pas qui ça.
Alors, et donc à ce moment-là, le roi nouveau serait soit Séti Ier, soit Ramsès Ier, soit Amenhotep IV. 2, c'est ça. Amenhotep II. C'est pas clair.
Non.
Hein? Quoi?
Non.
Pourquoi non?
C'est pas clair, mais je pense que c'est Séti quand même.
Parce que dans le film des 10 commandements, il s'appelle Séti.
Parce que par rapport à Moïse.
Mais c'est pas le pharaon de Moïse.
Non.
Le pharaon de Moïse, c'est sûr que c'est pas lui. Le pharaon de Moshe, c'est soit Ramsès II.
C'est son frère, son demi-frère Ramsès II.
Oui, mais c'est lui qui fait. C'est l'histoire de. Alors d'abord, on verra que c'est pas son frère, mais on verra. Oui. En tout cas, le pharaon de l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est soit Ramsès II, soit Amenhotep III. Mais il semblerait que le père de Amenhotep III, c'était Séti Ier.
Comment vous vous rappelez tous ces noms ?
Voilà, c'est compliqué. La chronologie égyptienne, elle est très compliquée parce qu'elle a plein de trous. Donc, on est sur la 18e dynastie. C'est pas clair. L'Orachou.
Ça, c'est la 18e dynastie, le roi
Ouais, alors. Tu reviens. Mais c'est pas très important. En vrai, on s'en fiche un peu de son nom.
C'est intéressant.
Ça a l'air, donc, quoi qu'il en soit, ce Melech Hadash, qu'on va appeler Séti Ier, disons, c'est pas sûr, mais disons, donc il dit voilà, on a un problème avec le Bnei Israël. Ava Nitrakemalo. Ça a l'air, donc, j'ai dit, est-ce qu'il connaissait vraiment pas Yosef, ou est-ce qu'il connaissait Yosef, mais il a fait genre, on s'en fiche. On s'en fiche. Tous les dirigeants dans l'histoire juive qui se sont retournés contre les juifs, ils savaient très bien tout ce que les juifs ils ont apporté. Vous croyez que Isabelle la catholique, elle ne sait pas ce que les juifs ils ont fait en Espagne. Elle sait très bien ce qu'ils ont fait en Espagne. Ce n'est pas la question. Donc, il fait comme s'il ne connaissait pas Yosef. Donc, Iné Am Bene Israël, et là j'en déduis quelque chose de très important. Comment Pharaon nous appelle ?
Le peuple.
Le peuple, les Bene Israël. Nous n'avons encore pas reçu
la terre,
c'est sûr, et encore moins
la Torah.
Non, parce qu'on a déjà entendu qu'on est devenu le peuple juif au moment du Mont Sinaï. Faux.
On n'a pas encore. C'est faux.
Nachon. Non, parce que les gens qui te disent on est devenu le peuple juif au moment où on a reçu la Torah, ça veut dire qu'ils font correspondre notre appartenance nationale à la Torah. Zélo. Nachon. On est déjà un peuple. Avant la Torah. Ouais.
On était encore en Égypte.
Et oui.
Ben oui.
À aucun moment, on a été des citoyens égyptiens. On est un peuple. On est une minorité nationale en Égypte, voire peut-être même une majorité nationale, puisque il nous dit Yesh Am Bene Israël Rav Ve'atzum Mimenu.
Plus puissant.
Il est possible qu'il y a plus de Juifs en Égypte que d'Égyptiens.
Alors comment on explique qu'ils ne se sont pas, ils se sont pas défendus et qu'ils sont devenus égyptiens?
Est-ce que tu as vu un film fantastique? Non, vraiment. Et alors il est fantastique parce que, d'abord parce que c'est du cinéma fantastique, mais aussi parce qu'il est fantastique. Des années, si je ne me trompe pas, 60. Hein, peut-être que je dis une bêtise, mais La planète des singes.
Oui. Ah, oui.
Le premier, l'officiel. Charlton Heston. Oui. C'est Moshe.
Oui.
C'est le même. C'est... Attends. Et tout.
C'était pas né.
Comment est-ce possible? Alors, c'est quoi le pitch hein? C'est qu'on a remplacé, c'est pour faire une allégorie sur la société humaine, machin, qui se comporte mal envers les animaux. Hein? Donc là, c'est une planète où c'est les singes qui dominent et les êtres humains sont mis en cage. C'est-à-dire, il y a évidemment beaucoup plus d'êtres humains que de singes dans la planète. Parce que tu sais comment ça marche. Il y a toujours une caste dirigeante qui dirige un peuple. Mon fils, il m'a demandé tout à l'heure, « Bah, mazé à Mahapécha Tsarfatit ?»«
Mazé ?»«
À Mahapécha Tsarfatit ?»«
La Révolution française. » »«
C'est quoi la Révolution française ?» Dans son cours, le prof, il a parlé de la Mahapécha Tsarfatit. Il m'a dit, « C'est quoi ? C'est un truc de foot ?»« Mazé ?» Je lui ai dit, « C'est trop long, là. Je ne vais pas en une seconde de deux, mais je vais t'expliquer. » Mais, excusez-moi, le tiers état, il représente combien en pourcentage de la population ? Comment ça se fait que le clergé, la noblesse, c'est eux qui gèrent tout ? Donc c'est pas nouveau que dans une population, il y a les dirigeants et c'est pas eux les plus nombreux.
Ouais. Puisqu'on dit qu'on était les plus forts, les plus nombreux.
Ouais.
On aurait dû les plus riches et les, qui a.
Oui, mais n'oublie pas que Vayakom Melech Hadash. Si on revient à notre histoire de Hyksos, il y a quand même eu une petite révolution en Égypte. Donc peut-être que les Juifs au pouvoir, ils se font un petit peu tout petits là maintenant. Ou alors ils veulent remontrer leur et surtout leur allégeance. Leur allégeance. Attention, moi je suis avec l'Égypte. Je ne vais pas commencer à faire des va-et-des-viens. Donc si tu veux, il y avait ici un peuple, les Égyptiens, qui étaient les Égyptiens de souche. Et il y avait un autre peuple, et ce peuple-là, cet autre peuple qui est plus nombreux, il faut les maîtriser. Comment faire ? Ah ben on a besoin de l'itrakem. Ava nitrakema lo. Ça marche, il va falloir être rusé. Ça ne marchera pas par la force. Ce peuple-là, ils ont quand même une particularité. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont des Égyptiens fidèles. À chaque fois, ils disent pas du tout, j'ai pas de double allégeance, je suis respectueux complètement des lois de mon pays, je respecte la France, enfin l'Égypte. Eh bien, servons-nous de cela. Et nous dit Pharaon, Vayasimu alav saremissim le man anoto besivlotam, vayiven aremiskenot le paro et pitom veet rameses. C'est très simple. On va mettre en place tout un stratagème pour faire en sorte que ces juifs-là soient au service du pays jusqu'au moment où ils en deviennent des esclaves. Comment on fait ? Alors Midrash, il raconte que Pharaon, il a dit, voilà, après la guerre, nous devons reconstruire le pays. Nous lançons des grands travaux de construction dans le pays. Et j'invite tous les citoyens qui se sentent fondamentalement égyptiens et concernés à prendre la pelle et la pioche pour venir aider. Et d'ailleurs, je serai le premier à prendre l'appel. Et il fait venir toute la presse. Il y a les caméras, il y a les photographes. Et il est là, Pharaon, avec l'appel, en train de piocher et peler la première pelle pour reconstruire l'Égypte. Ah, Pharaon se met à bosser. Et pendant le premier mois, il est là, Pharaon. Il enlève sa couronne et il prend l'appel. Attends, tous les Juifs se mobilisent. Tous les Juifs se mobilisent. Parce que c'est bien connu que lorsque Notre-Dame brûle, eh bien le grand rabbin de France fait un communiqué très important pour montrer notre soutien au peuple français. Bien sûr. C'est tout comme s'il n'avait pas mis un casque de pompier pour aller lui-même éteindre le feu. Parce que les Juifs se mobilisent. Et donc tous les Juifs se mobilisent. Enfin, les Égyptiens aussi, mais il y en a moins. Et les Juifs se sentent bien en disant, regardez, vous avez vu comment nous, on est truc. Et dans la presse est unanime. Les Juifs d'Égypte, un vrai modèle, extraordinaire. Et comme ça, les Juifs se sentent bien. Au bout d'un mois, le roi ne vient plus. Bon, personne, ça ne choque personne. Ah, c'était sympa quand même de venir, mais enfin bon, évidemment que le roi ne doit pas rester là, c'est évident. Et puis, au bout d'un mois, les dirigeants égyptiens, ils commencent aussi à ne plus venir. Mais enfin bon, c'est parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Et finalement, les seuls qui bossent, c'est les Juifs. Et on fait passer des nouvelles lois au Parlement pour la sécurité nationale, la sécurité intérieure. Et on fait passer des lois sur, finalement, la surveillance, parce qu'on a vu qu'il y avait des espions Hyksos, machin, et une loi qui passe également sur la préférence nationale, parce qu'on a peur des invasions étrangères. Alors vous comprenez, les Juifs, c'est pas contre vous, évidemment, mais enfin vous n'avez pas la nationalité égyptienne, donc vous n'avez pas le droit à accès à ces choses-là. Mais nous, on sait bien que c'est pas vous, hein, c'est pour les autres. Toute ressemblance, évidemment, avec des cas actuels, serait purement fortuit, involontaire, évidemment. Et donc, ben, nos Juifs se retrouvent à construire à Are Miskenot les Paro, c'est-à-dire des villes greniers, des villes où on peut tenir un siège pour Pharaon, les villes de Pitom et de Ramsès. Top. Vechaasher ya'anu oto ken yirbe vechenifrotz. Sauf que plus on n'asservit le peuple juif, plus il se multiplie. Ben oui, laisse les juifs pendant un an tranquilles, Et il y aura des manifestations à Caplan et devant la maison du Premier ministre pendant toute l'année. Mais frappe-les très fortement et ils vont se réunir. Et ils vont se multiplier. Et ils vont se renforcer. Hein ?
À quel prix ?
Ah, c'est terrible.
Il y a toujours
mais
un prix,
t'as remarqué que c'est toujours le même modus operandi. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand
ça.
On est en paix, on se tape dessus les uns les autres.
Voilà.
Et bien après, ça nous revient dans la tête et on se réunit jusqu'au moment où, à un moment donné, on arrêtera de se retaper dessus. Et j'ai envie de penser que là, il s'est passé quelque chose. Là, par exemple. J'ai envie de penser vraiment que là, la claque qu'on a reçue va faire qu'après la guerre, on va pas recommencer. Moi, j'ai envie de penser.
Il y en a qui même disent c'est un bien pour. C'est choquant de dire ça, mais.
Moi, j'ai des doutes parce qu'il y en a qui restent encore bien sur leurs idées.
D'accord, je sais qu'il y en a qui restent sur leurs idées, mais j'ai vraiment envie de penser que ça devient maintenant vraiment minoritaire. Bon, c'est Bezrat Hashem, qu'est-ce que vous utilisez ? En tout cas.
On ne nous aime plus, là.
Là, on ne nous aime plus. Là, on ne nous aime plus. Vaya vidou mitzraim et bene Israël befarech. Et vous voyez que c'est très, très, très. C'est très progressif.
Le
pas
talir, c'est voilà, toujours le même.
Le pas talir, c'est toujours le même.
Quel que soit le pays.
Et c'est progressif, ça ne se fait pas en une seconde. Non. C'est pour ça que.
En Espagne aussi, c'était.
Exactement. Maintenant, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on nous dit.
Les nazis, c'était comme ça.
Maintenant, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a tendance à dire qu'on est resté en esclavage en Égypte pendant 210 ans. C'est pas vrai. On est resté en Égypte 210 ans, mais l'esclavage n'a pas du tout duré 210 ans. D'abord. Jusqu'à la mort du dernier des frères de Yosef, Lévi. Lévi. C'est le dernier qui est mort. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est-à-dire que pendant les 130 premières années, il n'y a aucune antisémitisme, esclavage, rien. Et donc, il ne reste plus que 80 ans. Et pendant ces 80 ans, ça devient petit à petit. D'abord, on a dit les travaux, les machins, etc. Et la vraie esclavage du film... Terrible, c'est un an. C'est la dernière année où on est en Égypte où il y a l'esclavage qu'on voit dans le film des 10 commandements.
Et quand est-ce qu'il y a la loi pour tuer les
premiers nés
garçons mâles ?
Ah, alors on y vient. On va y arriver, je ne sais pas si on y arrivera aujourd'hui, mais on va voir que cette loi-là, elle n'est pas tournée contre les Juifs au début. Ok, on va y arriver dans deux secondes. « Vayomer melech mitzraim la meyaldot ivriot » Ils sont trop nombreux, les Juifs. Ils n'arrêtent pas de pousser. C'est de la vermine. Parce qu'on est champignons. C'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc, voyons, on met l'air Mitzrayim, la meyaldot à Ivriot. Il a dit aux sages-femmes juives, « Asher shem ha'achat shifra, shem ha'sheni poua. Mise shifra, lama shifra. » Nous dit Rashi, regardez pourquoi elle s'appelait shifra, c'est Yocheved. Mais elle s'appelle shifra, al shem she meshaperet et avalad. Chipra, Meshaper, parce que c'est elle qui permettait aux enfants de vivre. Il y avait une mortalité infantile, semble-t-il, en Égypte, mais elle arrivait à faire en sorte que le bébé naisse dans de bonnes conditions. Et Poua, Zo Myriam, Alchem, chez Poua, Omedaberet, Veogal, Avalad, Kederer, Anashim, Amefaïsot, Tinok, Aboche. C'est-à-dire que Chipra, elle savait donner les bons médicaments, et Poua, elle chantait des belles chansons. C'était les sages-femmes, les Meyaldot de Yoldot d'Alet. T'es en Dalet, toi ? T'es en Yoldot combien, toi ?
Non, je suis pas en Dalet, je suis en Alef.
Ah, en Alef. Alors, c'était les Yoldot Alef aussi de l'époque. C'est-à-dire, donc Myriam et Yochevet. Myriam et Yochevet, c'est pas n'importe qui.
Non.
C'est les filles de Amram. Enfin, la femme et la fille de Amram, qui sont les dirigeants. Amram, c'est le chef des Juifs en Égypte. Donc, c'est pas n'importe qui, Chifra et Poua, qui va être le père d'eux. Donc, c'est-à-dire que. On ne parle pas de Stam, c'est une mère et sa fille. Donc on ne parle pas de deux juives lambda, on parle des dirigeantes du peuple juif. Alors, premier décret terrible de Pharaon. Il décide de maintenant tuer les enfants juifs garçons, mais de laisser les filles en vie.
Pour qu'il y ait une assimilation.
Eh oui, parce que si on veut détruire tout le peuple juif, eh ben on fait une politique de zéro naissance. Mais pourquoi tu laisses les filles ? Parce que tu ne veux pas tuer le peuple juif, tu veux te les approprier. Et donc, tu sais que la matrice d'Israël, ça passe par les femmes, comme l'ancien pharaon d'Abraham avait pris Sarah. Et donc, tu dis non, mais... Ok ? Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Malahasot va yomer... va tirena mi aldot et Elohim velo asu ke asher diber alem melech Mitzrayim va techayena et yeladim. Ça ne marche pas.
Je n'ai pas compris pourquoi il laissait les femmes.
Parce qu'il ne veut pas, il veut pas se débarrasser du peuple juif. Il veut qu'il y ait un peuple juif, mais qu'il devienne égyptien. Parce que maintenant, puisqu'il n'y aura plus de garçons, les jeunes filles juives, elles se marieront avec qui ? Avec des Égyptiens ? Et donc l'Égypte deviendra Amségoula. Vous avez entendu parler de Verus Israël ? La théorie du grand remplacement, pas celle de Zemmour, mais celle de l'Église catholique ?
Oui, aussi.
C'est ça. Ça a commencé déjà là-bas. ויקרא מלך מצרים למילדות ויאמר להם מדוע עשיתם הדבר הזה ותחיינה את הילדים. Mais après il les tue pas. Il dit pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez pas obéi et que vous avez fait vivre les enfants? Bah, tue-les. C'est le pharaon, t'as deux personnes. Mais non, parce que c'est pas deux personnes. Si tu tues Myriam et Yochevet, il y a une révolution sur les bras. Eh oui, il y a un jeu politique derrière. Pourquoi vous avez fait ça? ותאמרנה המילדות אל פרעה כי לא כנשים המצריות העבריות כי חיות הנה. Tu nous as pas dit qu'il fallait tuer après les enfants. Tu nous as dit à la naissance. Si on voit que c'est un garçon, mais nous on arrive à chaque fois, c'est trop tard. Elles ont déjà enfanté. C'est trop tard, ça marche pas.
Mais pas d'échographie.
Ben non, pas d'échographie. Eh oui, c'est ça. Comme m'a raconté la rabbinite Mariacha Dre, que sa fille, qui a accouché il y a quelque temps, sa fille, elle vient de finir ses études de Meyaledet. À Paris, à l'hôpital. Et comme tous les cordonniers, ils sont mal chaussés. Et donc, madame, elle est méyaledette, donc elle a fait la maline, elle a fait la maline, elle a dit, maman, c'est bon, on a le temps, t'inquiète pas, c'est pas encore des vraies contractions, jusqu'à ce que, maman ! Et elle a accouché dans le salon. Dans son salon, parce que finalement, à force de dire à son mari, c'est bon, on a le temps, eh ben, elle a accouché dans son salon.
Ça
va, nous ? On a dit, bah, mal à la sorte, on n'y arrive pas. Non, ça a l'air. Vaï, et sera, vaïetev, Elohim, la meyaledot, vaïarev, aam, vaïatzmu, meod. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait un bien à ces deux femmes-là, et vaï, qui yarou, a meyaledot, et a Elohim, vaïas, laem, batim. Elles sont devenues les femmes qui vont amener la maison d'Israël. L'une va devenir la mère de Moshe, l'autre, Myriam. La sœur de Moshe, mais elle va aussi avoir, elle quelque chose de grand. Elle va être Myriam Anevia, ce que tu veux. Et donc, on voit qu'il y a ici une volonté d'avancer. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, alors, puisque c'est comme ça, Vayetzav Paro lechol amo, donc il leur donne à tout son peuple, les morts, kol aben ayelod ayora tashlichu vechol abat techayoun. Il leur donne à tout son peuple de jeter dans le fleuve tous les enfants garçons et de garder toutes les filles. À tout son peuple, y compris les Égyptiens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.